France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une cuisine à la tomate, la cuisine portugaise, nullement. Ou alors, parfois. En revanche, bien sûr, la morue, ça, ce n'est pas un cliché. Comment nier que le plat principal du Portugal est bien le poisson ? Mais il ne faut pas oublier les influences judéo-arabes pour les desserts et les frontières plus ou moins franchissables. Au nord, le cumin et le safran, la tomate, plus bas, la coriandre, au sud. Et puisque les Portugais sont allés partout, ils en ont profité pour rapporter non seulement des produits alors exotiques, mais aussi des manières de préparer la cuisine. De bouche à oreille, première diffusion sur France Culture le 7 décembre 2003.
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table !
Aujourd'hui, Portugal, saveur et langue de morue.
Gosto, paladar, sabor. Paladar vient de palais. C'est la saveur du palais, donc c'est déjà beaucoup plus intime et plus sensuel. Le goût pouvant être le goût visuel. Paladar est toujours dans la bouche. Et savoir, qui est la traduction du mot saveur.
Pourquoi saveur et langue de morue au Portugal ? Parce que morue se dit bacalhau, qu'il faut prononcer doucement en faisant couler les consonnes, comme si la saveur du mets était déjà dans le mot, comme si l'océan était toujours présent dans l'odeur des étals. La cuisine portugaise est un voyage en elle-même. Du Trás os Montes à l'Alentejo, on hume les caldeiradas sur les plages, mais aussi le piment angolais, l'ananas du Brésil et les pâtes d'amande apportées par les morts. La cuisine portugaise, comme la langue, a peu à voir avec sa voisine, l'espagnole, plus proche d'une rêverie océane que d'une morsure dans la chair des viandes. Au sommaire de bouche à oreille, juste un mot, caldo verde. Reportage au restaurant Vasco de Gama avec Margarida Mesquita et entretien avec Jorge Tavares da Silva, linguiste et auteur de la cuisine portugaise de tradition populaire. Comment le goûtez-vous ? Micro-ondes. Juste un mot, caldo verde.
Le caldo verde, c'est une soupe au chou vert. C'est un bouillon de purée de pommes de terre avec oignon et d'huile d'olive aussi. Et le chou vert, c'est coupé très très fin. Très fin, comme... très fin, coupé. Et après, on le fait cuire dedans. Et chaque assiette qu'on sert au client, on met des rondelles de chorizo. Et on sert ça avec une tranche de pain de mie.
Reportage. Jorge Tavares da Silva est né au Portugal, il vit en Belgique et il est linguiste au secrétariat général de l'Union européenne. Des saveurs exotiques à celles du terroir, le Portugal sait croiser les influences.
Le Portugal est un tout petit pays. Le Portugal a une structure sociale et culturelle très unifiée depuis très longtemps. C'est le plus vieil État-nation du monde avec le Danemark. Il y a une unité que la France n'a que depuis très peu, et encore, quand on parle d'unité de la France, vous voyagez, vous faites 300 km, voire moins, et toutes les notions changent un peu, en tout cas. On ne mange pas de la même façon en Touraine que dans le Midi, on ne mange pas de la même façon dans le Sud-Ouest ou à Strasbourg. Donc, faire une image de la France et la comparer avec le Portugal... Il y en a peut-être une, c'est que la cuisine française est une cuisine plus élaborée où on enrobe les mets de sauce, on le maquille dans le bon sens du terme. Chez nous, c'est une cuisine plus proche du terroir, plus simple, complexe à préparer, parce que demandant beaucoup de tours de main.
Le plat national portugais, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Le poisson. Le poisson, à nouveau, je ne veux pas me fixer sur un plat, mais disons que l'aliment portugais par excellence, c'est le poisson. D'ailleurs, dans le livre qui présente 300 recettes à peu près, sur 4 siècles, plus d'un tiers sont des préparations de poisson et presque la moitié sont des préparations de la mer ou liées à la mer. C'est normal, c'est un pays beaucoup plus petit que la France qui a une surface de un peu moins de 100 000 km², mais il y a 850 km de côte, ce qui est énorme pour un pays pareil. Mais l'Italie, évidemment, ça c'est magnifique parce qu'ils n'ont pratiquement que de la côte. Mais nous n'avons pas vraiment une grande diversité, et puis ça s'est unifié pour des raisons historiques. Il y a une cuisine du Nord, il y a 3 frontières, en fait. Il y a l'utilisation de la coriandre dans le Sud, à peu près jusqu'au Tage, le tiers inférieur. Il y a l'utilisation de la tomate entre le Tage et le Mondego, qui est à la hauteur de Coimbra, à peu près. Et vers le Nord, on commence à utiliser les cumins et le safran. Mais c'est vraiment à grands traits, parce qu'on ne peut pas faire des différences et des frontières très nettes, mais il y a certainement ça. Il y a quelques années, les gens du Nord mangeaient presque jamais de la coriandre, et les gens du Sud n'avaient pratiquement jamais vu du safran.
Quel serait le cliché à propos du plat national portugais qu'on pourrait entendre, ou un stéréotype?
Là, vous me faites plaisir parce que j'aime bien taper là-dessus. Le pire que j'ai vu et qui est resté, c'est Ali Bab qui l'a dit. Je n'ai pas la phrase en si, je crois que je l'ai ici quelque part.
Ali Bab qui est un
grand...
Un auteur de textes gastronomiques.
Hein, oui, il a un livre de cuisine qui fait référence. Et c'est lui qui a collé à la cuisine portugaise l'idée... d'être une cuisine à la tomate, ce qui est tout à fait fou. Alors, dans sa gastronomie pratique, parue au début du siècle, il dit ceci. L'Espagne est un beau pays, mais la cuisine y est bien médiocre, pour ne pas dire davantage, sauf à Barcelone où j'ai pu vivre à la française. La cuisine portugaise ne vaut guère mieux que la cuisine espagnole. On consomme au Portugal beaucoup de pois chiches et la plupart des sauces sont aromatisées à la tomate. C'est tout à fait faux. Et ça colle à la cuisine portugaise au point que n'importe quelle préparation en gastronomie internationale, à la portugaise, vous êtes sûr que vous avez de la tomate. Et ça, c'est faux. Parce que nous n'utilisons pas tellement de sauces à la tomate. Donc ça, c'est un cliché créé de toutes pièces. Comme on a créé toute pièce au 19e, une américaine, l'idée que Marco Polo avait ramené les spaghettis de Chine, ce qui est fou. Il y a des clichés comme ça. C'est un peu comme le français qui a sa baguette sous le bras et son béret, quoi. Bacalhau anarchiste, morue anarchiste, pastéis de bacalhau, beignet de morue, bacalhau cozido com todos, morue bouilli au pois chiche, punhetas de bacalhau, branlette de morue, bacalhau à Brás, morue à Brás, bacalhau em tiges de linhas, morue en ramequin, bacalhau com mariscos na cataplana, morue au fruit de mer en cataplana, bacalhau à gomes de sá, morue gomes de sá, bacalhau à Salazar, morue Salazar, bacalhau de segredo, morue secrète, bacalhau à bruxa, morue sorcière, bacalhau verde, morue verte, volúpia de bacalhau, morue voluptueuse.
Dans son livre « La cuisine portugaise de tradition populaire », Jorge Tavares a fait un travail d'historien de la table avec une nomenclature étendue des poissons et des mollusques. Il s'est amusé à inventer des titres pour certaines recettes de pays. Variation sur cette morue qui n'est pas un cliché.
La morue n'est pas un cliché. La morue est effectivement une composante fondamentale de l'alimentation portugaise. Pour différentes raisons, La plus importante étant probablement qu'elle pouvait se conserver longtemps sans autre forme de procès que de la pendre quelque part au sec. C'est un aliment qui est déshydraté, qui est salé, que l'on achète comme ça déjà, et qui se conserve, si les conditions d'humidité ne s'altèrent pas, ça se conserve plusieurs mois, voire une année. En outre, la morue, quand elle arrivait sur le marché, en grande quantité, quand les bateaux revenaient des campagnes de pêche en Terre-Neuve, était relativement abordable. Et ça collait aussi aux exigences de l'Église catholique et aux jours d'abstinence. Il y en avait 150 par an, où on ne pouvait pas consommer de viande, ni d'œufs, ni une série d'autres choses. Mais la morue, on pouvait, et ça se conservait, même loin de la mer. Donc c'est important. Et la morue n'a pas droit de cité pendant très longtemps. Elle n'a pas eu droit de cité dans les tables bourgeoises, nobles et autres. Le premier recueil de cuisine qui donne des recettes de morue est dû à un Français, Luc Arrigot, qui a travaillé au Portugal à la fin du XVIIIe et qui a publié un recueil où il donne 6 recettes de morue. Il y a des références à la morue dans des textes, notamment dans des textes de cuisine conventuelle et des manuscrits, mais la morue n'entre en force dans les recueils que vers la fin du 19e, et alors tout à fait en force après la République au début du siècle, vers 1910, quand une nouvelle classe sociale arrive au pouvoir et n'a plus honte de dire qu'elle mange la morue. Sinon, tout le monde en mangeait, mais ça ne s'avouait pas, ça ne méritait pas d'être écrit, ça n'avait aucun intérêt. Mais c'est une composante importante. Le Portugal ne pêche plus la morue aujourd'hui. On l'importe de Norvège notamment. Mais c'est toujours un aliment extrêmement consommé et on dénombre une quantité invraisemblable de variantes. On prétend qu'il y a autant que de jours de l'année. En réalité, moi j'en ai 800 ou 900 différentes. Mais la vérité m'oblige à dire qu'à mon avis, il y a 10 recettes de morue.
Nous devons aux Portugais un témoignage de reconnaissance d'avoir les premiers introduits dans l'alimentation ce poisson, universellement connu et apprécié, la morue. Escoffier.
Margareta Mesquita, chef cuisinière, dirige le restaurant Vasco de Gama à Paris, dans le 15e arrondissement. Et elle prononce le mot bacalao avec concentration et précaution.
Bacalhau. Bacalhau. Alors, en portugais, cassoulet de morue, feijoada de bacalhau. Mm-hmm. En Portugal, on a 360 façons de faire la morue. Mais moi, ici, dans ma carte, j'ai 7 façons de faire la morue. Je ne peux pas avoir à faire tout, ce n'est pas possible. Mm-hmm. Mais j'ai 7 façons de le faire.
Et alors, comment vous les avez choisies, ces 7 façons?
Par hasard, comme ça, dans ma tête. Parce que vous savez qu'un cuisinier, une cuisinière, c'est aussi quelqu'un qui invente des choses. Alors, de jour en jour, j'invente des plats. Et voilà, et ça continue, et on change la carte. Tous les 3 mois, on change notre carte. Alors, on a un morue à gomchça, c'est des pommes de terre cuites coupées en rondelles, avec de la morue, poêlée avec de l'huile d'olive, des oignons, du persil, de l'ail. Et puis tout ça, bien poêlé, et c'est décoré avec de l'œuf dur. On a aussi une nortade, c'est du nord ce plat-là. C'est un pavé de morue frit. Il y en a une tranche de jambon, un œuf, une sauce qu'on fait, une sauce de chez nous, et des petites pommes de terre frites. Des, pas beaucoup de pommes de terre, c'est la morue et la sauce qui donne bien le goût. Et une belle tranche de jambon et un œuf à cheval. Et les gens adorent, surtout les Français adorent la morue. Et je vous dis quelque chose, madame, ça fait 36 ans que je suis en France. Quand je suis arrivée, on ne voyait pas trop de morue. Et les Portugais, petit à petit, ils ont ramené la morue. Et maintenant, les Français viennent ici, surtout le week-end, manger de la morue. Là vient des restes.
Dites-moi, Margareta Mesquita, la morue, quand vous la dessalez, comment vous faites? C'est long, hein?
Oui, c'est long. On achète par 25 kilos, on la coupe, On la coupe un pavé, on coupe une partie, c'est pour faire un plat, et on coupe un pavé pour griller et faire la nortade, comme j'expliquais, frite avec le jambon. On met dans l'eau, dans un grand bac de l'eau, on change tous les jours pendant 36 heures. Là, on change la nuit, on change le matin, on change au midi, trois fois par jour.
Changer l'eau?
Oui, pendant 36 heures, et là, elle est bonne.
Alors, la cataplana, ou le cataplana, comment on dit?
C'est féminin, là, il n'y a aucune discussion. Mais un cataplana est un ustensile, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, à ce que moi-même je pensais, est extrêmement récent. La cataplana est apparue au Portugal aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale. L'ustensile n'existait pas. La cataplana, pour les lecteurs qui ne connaissent pas, c'est une double coquille en métal, soit en tôle martelée, soit en cuivre étamé à l'intérieur. Une double coquille qui a des fermetures dans le même métal et une charnière. Et au départ, ce n'est même pas une casserole, c'est un plat où l'on sert. Elle est servie pour la première fois à des touristes en 1953 pour une préparation de homard en Algarve, dans la ville de Lagos. Et l'origine fait en ce moment l'objet de mes recherches depuis 2 ans, et je suis sur le point de publier le résultat. L'origine est tout à fait étrange parce que, d'abord, elle n'est pas certaine, et est étrange parce que le mot cataplana en portugais est un mot qui n'a aucune équivalence et qui n'a pas d'origine, si ce n'est une petite exception. Et la forme est une forme inexistante en cuisine portugaise, cette double coquille. Pour la forme et pour le mot, mon esprit se refuse à accepter qu'un artisan, c'est pas que je méprise les artisans, loin de là, ait créé à la fois la forme et le mot. Ça ne s'est jamais vu. En général, l'artisan adapte une forme et lui donne un nom, ou crée une forme et va chercher un nom existant, ou trouve un autre mot pour désigner une forme existante en adaptant. Mais qu'un artisan ait créé les deux choses en même temps, ça m'étonne beaucoup et je ne pense pas que ce soit vraisemblable. Quelques auteurs de livres de cuisine, à partir des années 50, commencent à citer la cataplana et à la décrire.
Moi, il y a 25 ans, c'est mon fils qui a ouvert le restaurant, moi j'ai parti 8 jours à Portugal pour chercher de la vaisselle typique. Maintenant, on n'a plus parce que tout se casse et puis on ne peut pas acheter tout le temps à Portugal, ce n'est pas possible. Et c'était de la vaisselle intercuite. Et j'ai vu des cataplanes et je ne connaissais pas à l'époque qu'est-ce que c'était cataplane. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu dans le livre la cataplane. On fait de différentes façons. On peut faire avec du capri, on peut faire avec de la morue, on peut faire avec du poulet, on peut faire avec du poisson. Et tout ça, c'est accompagné avec des coquillages et des gambas. Si c'est poisson, c'est coquillage et gambas. Si c'est viande, c'est coquillage et gambas. Avec du riz, et c'est merveilleux, c'est délicieux. Maintenant, tous les restaurants le font, et c'est bien, c'est très bien, mais moi, je l'ai fait depuis des années.
Margarida Mesquita nous a dit avoir inventé des recettes pour survivre.
Je suis née à Sintra, à 20-25 km de Lisbonne. C'est un petit village touristique très joli, plein d'arbres, c'est joli.
Vous y retournez?
J'y retourne tous les ans, 2 fois. Ouais. Des fois, quand je peux, j'y retourne 3 fois.
Ouais. Et est-ce que là-bas, il y avait des plats qu'on faisait plus volontiers qu'ailleurs quand vous étiez enfant? Alors, vous m'avez dit que vous étiez enfant, c'était la guerre.
Oui.
Donc, il n'y avait pas grand-chose à manger. Mais justement, dans ce pas grand-chose, qu'est-ce qu'il y avait?
Ce qu'il y avait de ce pas grand-chose, c'était le demi de pain qu'on faisait bouillir avec un petit peu d'huile d'olive qu'on en avait. Et on mettait dans la coriandre. Et on mangeait ça. C'est tout. On n'avait rien à manger, madame, pendant des années. Jusqu'à l'âge de, que je me rappelle, de 5 ans, à 12 ans, c'était ça. c'était vraiment la misère. Alors, je ne connaissais pas la cuisine. Ben, maintenant, oui, je la connais bien. J'ai appris au Portugal avec une cuisine qui avait à l'époque un grand restaurant. J'étais jeune, je travaillais avec elle, j'ai appris. Et en arrivant en France, mes enfants et moi, on a pensé faire ces petits restaurants avec le nom de la rue, le nom du navigateur portugais, Vasco da Gama. Et alors, on n'a pas profité, c'est un hasard. On a trouvé cette rue et on a mis le restaurant Vasco da Gama. Même mon fils, il a fait le bar, c'est un coq d'un bateau. Et puis, cette décoration, c'est de mes enfants.
Quel est le plat que vous aimez le plus faire, vous, qui vous fait le plus plaisir à faire?
Le pot-au-feu portugais. J'adore faire. Ça s'appelle cozido à portuguesa. Parce qu'il y a de la viande de porc, de la viande de bœuf, de chorizo. Il y a du chorizo de viande, du chorizo de sang, qui c'est le chorizo noir. Il y a du chou, il y a des carottes, des navets, du poulet, et du porc, j'ai dit, je crois. Il y a beaucoup de viande. Et puis, on met de l'haricot blanc, et il a fait une soupe, enfin, ça fait un cosito, c'est-à-dire le cosito portugais de pot-au-feu, et après, on mange la soupe. Mm-hmm. Et j'adore faire ce plat-là. Mm-hmm. Et ce moment qui fait froid, c'est très bon.
Et alors, vous avez appris dans un livre de cuisine aussi, vous m'avez dit?
Ici, au restaurant, je me suis servi d'un livre de cuisine de Maria de Lourdes Modesto, une grande dame qui écrivait des livres de cuisine. Elle allait d'un village en village pour savoir comment on faisait les plats. Et elle a écrit dans ce livre et j'ai pris beaucoup de choses avec. C'est-à-dire, j'ai lisé une fois et puis je faisais à ma tête. J'ai mélangé un petit peu plus, un petit peu moins, je faisais à mon goût. Ben, j'ai appris beaucoup de choses.
Vous vous souvenez du premier plat que vous avez fait dans ce restaurant?
Oui, je me rappelle bien, j'ai fait des croquettes de crevettes et de la brache. De la brache et de la morue avec des pommes de terre à le mettre, tout mélangé avec de l'œuf et du persil. Et ça fait, c'est pas une omelette, c'est un genre d'omelette, mais c'est différent et c'est délicieux. Et je vends beaucoup. Okay. J'ai des tables de 30 personnes, tout le monde veut de la brache. Alors, vous voyez, j'ai fait aussi du cassoulet de morue, c'est de l'haricot blanc qu'on fait cuire chez nous, bien sûr. Et il y a de la morue. On enlève la peau, les arêtes, tout ça, et on fait revenir avec la tomate, l'oignon, le poivron. Et alors, les gens se régalent. Hier, j'ai eu des Français qui, une fois, j'avais conseillé ce plat. Et alors, quand je suis allée prendre la commande, je lui ai demandé s'ils avaient choisi. Ils m'ont dit, oh, le même plat de l'autre jour. On était enchantés. Et voilà. C'est vrai.
Île flottante, farofias, caldo verde, potage aux carottes, sopa de cenoura. Soupe chatte, sopa gata. Potage au congre, sopa de safio. Nid de Pâques, folard da Pascoa. Crème d'ao, crème amodado d'ao. Gâteau argenté, bolo de prata. Figue de Barbarie givrée, figos da India ovalados. Potage aux crevettes, sopa de camarão. Œuf mou, ovos moles.
Nous avons une culture qui est très, très fortement influencée et même façonnée par les cultures sémites, plus spécifiquement juives et arabes, plutôt du Maroc, avec des points communs très, très intéressants, comme le fait de saler le poisson avant les préparations, de préférence au gros sel, ce que les Marocains font aussi. Et nous avons une cuisine, de ce point de vue-là, très, très proche de la cuisine marocaine, mais il y a une frontière chez nous qui est la frontière huile d'olive saindoux. Donc là c'est le point de frottement entre les deux cultures, le cochon, le saindoux et toutes les salaisons, et de l'autre côté mouton huile d'olive. Nous ne consommons pas trop de mouton, et quand on le mange, il est très bien cuit, voire confit, exactement comme les Arabes. Il n'est pas question, et ça pose souvent des petits problèmes, même au sein de ma propre famille, parce que les uns préfèrent le mouton ou l'agneau rose, voire rouge, et pour moi, il doit être confit, sinon il est cru. Donc, ça, c'est parfaitement culturel. Ça n'a aucune explication de goût ou de saveur. C'est vraiment une sorte de refus, comme vous ne servirez pas un sandwich au jambon à un arabe ou à un juif, parce que il n'essaiera même pas. Je ne parle pas ici des pratiquants, c'est beaucoup plus profond que ça. Nous avons intégré, par exemple, en pâtisserie, qui est sans doute le fleuron de la gastronomie portugaise, et là c'est très élaboré, sans fausse modestie, je pense que c'est une des meilleures pâtisseries du monde. Nous avons intégré à la fois l'extrême douceur et la quantité invraisemblable de sucre et de miel des pâtisseries arabes et orientales, et les œufs, qui n'utilisent pratiquement pas. Je pense à un dessert qu'une de mes amies m'a servi il n'y a pas longtemps, qui est une lampreia do avos, qui est dans le livre, qui est une lamproie. Au fait, c'est un plat incantatoire, un plat qui figure une lamproie, qui est entièrement faite d'œufs et de sucre. Et pour 8 personnes, il y avait 72 jaunes d'œufs. Et les gens mangeaient, il y avait une amie libanaise qui était là, qui n'avait jamais goûté à la cuisine portugaise. Et quand on lui a dit qu'il y avait 72 jaunes d'œufs, elle est tombée malade. Et ça, c'était purement culturel. Parce que c'était invraisemblable pour quelqu'un. Or, elle n'a pas mangé 72 jaunes d'œufs, elle n'a mangé qu'une infime partie, mais c'était une concentration invraisemblable. Ça vient des couvents qui utilisaient les blancs à la fois pour clarifier le sucre et pour amidonner les coiffes des nonnettes. Et ils se retrouvaient là avec une quantité de jaunes, et petit à petit, la cuisine conventuelle a fait une association entre ces deux pâtisserie orientale et les œufs, et c'est devenu quelque chose de sui generis, qui est notre pâtisserie, encore aujourd'hui tout à fait courante. Quand vous allez au Portugal, vous le savez, les lieux de dégustation sont des lieux d'une convivialité extraordinaire, et les gens mangent une assiette de gâteau, il y a certainement une douzaine d'œufs, ça c'est sans aucun problème. J'ai consacré un chapitre à la cuisine coloniale parce que les Portugais sont allés partout, peut-être un peu avant les autres, et ont ramené et sont souvent mélangés aux gens des différents pays où ils étaient. Ils ont ramené des produits, mais aussi des façons de préparer. Et petit à petit, tous ces plats ont intégré la cuisine portugaise. Bon, il n'y avait pas d'haricots en Europe avant qu'on les trouve en Amérique. Quoique, il y a une variété, le Fazeolus egyptius, qui est une sorte d'haricot, et en Chine apparemment aussi. Mais il n'y avait pas. Et les haricots sont ramenés des Amériques. Et aujourd'hui, au Portugal, il y a plusieurs plats à base d'haricots. En France aussi, le cassoulet. Les cassoulets, nous l'appelons feijoada, de feijão, faillot, haricot en portugais. Mais dans toutes les colonies portugaises, on trouve des feijoadas différentes, avec les produits locaux, mais toujours avec cette constante du haricot. Mais c'est devenu un plat que l'on mange partout, du nord au sud du Portugal, et dans toutes les colonies, on en a trouvé. Il subsiste des plats d'haricot. Il y a d'autres mets.
Il y a les épices.
Les épices, c'était... C'est moins dans la cuisine, parce que la cuisine portugaise n'est pas une cuisine très épicée. Mais les oranges, c'est important, parce que dans beaucoup de langues, en arabe notamment, et en grec, et dans d'autres langues encore, orange se dit Portugal, et Portugal, al-Burdugal en arabe, parce que les Portugais qui les ont importés, il y avait l'orange amère qui était connue, mais pas l'orange douce, l'orange que l'on consomme. Et là, encore une fois, ça colle au messager ou à celui qui l'a transporté. Et c'était par souci de développement économique que les gens ont commencé à vendre les produits qui venaient d'ailleurs. Les épices, bon, c'était un début avoué des découvreurs, c'était de concurrencer les routes des caravanes.
Comment le goûtez-vous, Margareta Mesquita?
Moi, j'ai fait un gâteau que j'appelle gâteau grand-mère. C'est avec du café, des petits gâteaux portugais, que c'est boulache Maria, qui s'appelle. Et je suis venue de Portugal, et du café, des œufs, du beurre, et j'ai fait un mélange, j'ai fait un gâteau que j'ai appelé grand-mère, et ça se vend comme des petits pains.
Micro-ondes, la cuisine portugaise de tradition populaire, est parue au Guide des connaisseurs en Belgique. De bouche à oreille par Renel Caïm-Bollinger, aujourd'hui Portugal, saveur et langue de morue, avec Margareta Mesquita, Jorge Tavares da Silva, texte lu par Frédéric Cantrel, contact Catherine Madure, mixage Jean-Michel Bernot, Laure Jung-Lancret, réalisation Véronique Villa.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 décembre 2003. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Tudo aceito, mas que o amor.